Fréquence Mistral.
Bonjour à tous les auditeurs de Fréquence Mistral. On se retrouve pour un nouveau numéro de 100% Foot, votre émission dédiée à l'actualité du ballon rond, avec aujourd'hui mon acolyte Patrick. Bonjour Patrick.
Salut, bonjour voilà. À tout le monde.
Et on a eu une pensée pour Franck qui est absent aujourd'hui. Là. Il a un petit souci
de santé.
Ouais. Voilà, on lui souhaite un prompt rétablissement et on espère le revoir prochainement pour la prochaine émission. Voilà, bon, c'est pas grave, on va faire l'émission à deux, ça devrait nous permettre de pouvoir évoquer toute l'actualité footballistique après cette trêve internationale. Voilà, ça fait 15 jours que je pense qu'on vous a manqué, il y a l'actualité riche, donc on va évoquer tous les sujets qu'on a l'habitude, c'est-à-dire les féminines, le national et la Ligue 1 et Ligue des Champions aussi. Grosse semaine européenne avec nos clubs français et l'Olympique de Marseille qui jouait sa troisième rencontre de Ligue des Champions hier soir du côté de Lisbonne au Portugal, et ça s'est pas trop bien passé. Voilà, on va y revenir en grande partie. Voilà, on va d'abord commencer, Patrick, si tu le permets, avec l'Arkema Premier League, les filles de Corinne Diacre. Voilà, après la semaine dernière en coupe, le week-end dernier, c'était la grande première sur le banc de Corinne Diacre pour les Marseillaises. Et ça s'est mal passé pour ses retrouvailles du côté de Charletti en région parisienne face au Paris FC, face à son ancienne coéquipière Sandrine Soubéran.
Oui. Voilà.
6 buts à 1 le score.
Une grosse claque. Faut quand même expliquer à nos auditeurs que un championnat en Ligue 1 Arkema, qui est la première division féminine, il y a 3-4 grosses équipes et les autres, c'est il y a un gros écart avec tout le monde, et Paris FC, et qui est en Ligue des Champions féminines.
Ouais. Et qui s'est incliné lourdement face à Chelsea quelques jours auparavant,
voilà,
4-0.
Voilà, c'est voilà. Disons que, hormis les Lyonnaises qui sont au-dessus, même Paris Saint-Germain cette année a beaucoup de mal chez les féminines.
Ouais. On l'a vu, puisque au cours de cette journée, elles se sont imposées seulement 1-0 sur la pelouse de la Méno face au Racing Club de Strasbourg,
voilà,
qui est une équipe du milieu de tableau cette Arkema Première Ligue.
Ouais. Et donc, disons que les féminines de l'OM qui remontent de Ligue 2 se sont renforcés, mais il y a quand même un gros gap, comme il peut y avoir d'ailleurs chez les hommes, où tu vois que les équipes qui montent, si tu n'as pas des budgets comme le Paris Football Club masculin pour acheter du monde, tu te retrouves un peu en galère, parce qu'à un moment donné, tu fais avec les moyens du bord. Mais je pense personnellement que Corinne Diacre, c'est une bonne recrue, parce que c'est l'ancienne sélectionneuse de l'équipe de France.
Elle a quand même un CV qui parle pour elle.
Ah oui. Et puis c'est quelqu'un de très carré, qui fait progresser, puisqu'elle a entraîné les hommes à Clermont, elle a entraîné les masculins.
Il faut le rappeler pour nos auditeurs qu'elle a une expérience chez les garçons au niveau de la Ligue 2.
Professionnelle.
Voilà, avec l'équipe de Clermont.
Elle avait eu d'excellents résultats, elle avait fait progresser beaucoup de joueurs. Après, leur problème, c'est que chaque année, les deux ou trois meilleurs, ils partaient.
Voilà. Malheureusement, tu ne peux pas retenir tes meilleurs éléments. Donc, forcément, le niveau s'affaiblit et ça se traduit par les résultats actuels.
Voilà. Et là, disons que c'est, à mon avis, une bonne recrue. Tu as eu la on a quand même gagné en Coupe de France le week-end d'avant.
Ouais.
Mais là, évidemment, tu as pris le numéro 3 du championnat.
C'était un gros morceau, donc peut-être
morceau,
c'était un peu trop haut pour cette équipe des Marseillaises. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu 2 buts en 5 minutes et ça a été donc une grosse gifle. Et avec cette nouvelle défaite, l'Olympique de Marseille, les Marseillais se retrouvent 10e au classement.
Voilà, sur 12.
Ouais.
Mais après, il n'y a qu'un relégué. Hein, donc ça laisse de la marge. Mais je pense qu'il va falloir qu'elle travaille, qu'elle progresse. Mmh. Il faudra surtout contre les équipes du même championnat, c'est-à-dire du bas de tableau. Mmh. C'est là qu'il faudra prendre les points.
Et là, le prochain rendez-vous, ce sera la réception du Racing Club de Strasbourg du côté du Stade Francis Turquin, vendredi prochain, le 31 octobre.
Voilà
pour cette équipe des Marseillaises de Corinne Diacre.
Voilà.
Voilà, bon, ben on a fait le tour concernant les Marseillaises. On va passer au national rapidement, puisqu'on va, on va débriefer la rencontre de Ligue des Champions hier soir de l'OM du côté de Lisbonne. Donc, on va parler de cette équipe de Aubin Herbel qui, malheureusement, il y avait deux journées de national qui se disputaient vendredi et mardi, milieu de semaine. Une semaine où les clubs français étaient engagés sur la scène européenne. Et pour cette équipe d'Aubin Herbel, ça s'est soldé par une défaite à l'extérieur du côté du Stade Bonal 2-0 face au Football Club de Sochaux. Et un match nul à la maison mardi soir au Stade de Lattre face à cette équipe de Valenciennes.
Okay, voilà. Et il faut quand même rappeler à nos auditeurs que Sochaux-Valenciennes, ceux qui s'intéressent au foot connaissent un peu les noms. C'est les
deux pensionnaires
de Ligue 1.
De Ligue 1. Donc voilà, une équipe vraiment plus expérimentée.
Voilà, et donc il en reste quand même des restes avec des joueurs qui ont été sortis du centre de formation. Avec Valenciennes a souvent des joueurs prêtés par Lille, gros club de Ligue 1, des jeunes. Et donc c'est des équipes solides. Pour Aubagne, c'est un peu compliqué, mais perdre 2-0 à Sochaux, il n'y a rien d'humiliant. Et le match nul contre Valenciennes, c'est pas non plus... ils sont 7 ou 8e, enfin ils sont 8e je crois, mais 7e au point, mais ils sont ex aequo, mais c'est une histoire de goal average. Mais enfin ça va, tu es au milieu du tableau, tu es bien tranquille.
Oui, ben là actuellement... Après, on jouait la 11e journée.
Hein. Oui.
Voilà, cette équipe d'Aubin Herbel occupe la 8e place avec 14 points.
Oui, hein.
Ce qui est quand même honorable pour une équipe qui remonte.
Hein. Qui est une vraie équipe amateur, parce que le problème de ce championnat national, qui est la 3e division, c'est qu'il y a des ex-clubs pro, il y a Dijon, par exemple, il y a des équipes comme ça, et qui ont des joueurs qu'on appelle promotionnels, qui sont des joueurs pro de Ligue 2, mais qui ont un statut, puisque les clubs ont perdu la plupart le statut. Il y a Nancy, l'année dernière, était toujours pro, mais parce qu'ils venaient de descendre, ils sont remontés en Ligue 2. Mais... Donc, tu peux avoir des joueurs qui sont...
Mais d'ailleurs, le coach du FC Sochaux, Vincent Rognon, est un ancien joueur passé par l'AS Nancy-Lorraine. Hein.
Voilà, et entre autres, voilà. Et c'est un ancien entraîneur de Ligue 2, puisqu'il a entre autres entraîné Grenoble il y a 2 ans, je crois. Donc, c'est un mec d'expérience. Et ils ont encore des restes de leur centre de formation.
Ce qui n'est pas le cas de cette équipe d'Aubagne qui a fusionné cette année avec l'équipe de Herbel pour disputer ce championnat national.
Voilà, mais les équipes de jeunes de Herbel, qui est un excellent club formateur de la région. Et c'est vrai que quand tu regardes les noms, moi des fois je regarde comme ça sur les journaux, tu as dans des équipes comme Sochaux, Valenciennes, où tu peux avoir Dijon, des noms que tu connais parce qu'ils étaient titulaires en Ligue 2 il y a quelques années. C'est des bons joueurs de ballon, expérimentés.
Oui, des joueurs professionnels qui ont déjà eu une expérience au plus haut niveau, en Ligue 2, voire des fois à l'échelon supérieur en Ligue 1.
Oui, certains, beaucoup qui ont été formés dans des clubs pro, qui n'ont pas forcément qui est maximum, mais qui sont des joueurs intéressants. Et c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué pour une équipe comme Aubagne. Des fois, moi, je regarde les matchs chez nos confrères de BFM.
Oui, puisque c'est eux qui retransmettent les matchs avec la complicité de la Fédération française de football qui leur octroie les images.
Et l'avantage pour un téléspectateur comme moi, c'est que c'est à 19h30 le vendredi.
Ouais.
Donc, tu n'as pas... Si tu veux regarder le match du vendredi soir à 21h en Ligue 1, tu as le temps de regarder au bannière belge juste avant.
Ouais.
Voilà, et après, tu changes de chaîne. Mais c'est des matchs intéressants. Alors, le niveau n'est pas extraordinaire comparé à, si tu as vu la Ligue des Champions hier et avant-hier, donc mardi, mercredi.
Ouais, mais bon, après, toute proportion gardée, ça reste quand même
un
championnat de 3e division, ancienne 3e division, championnat national. Mais je veux dire, à l'échelon inférieur, en ce qui concerne la France, c'est quand même un niveau plutôt bon.
Oui,
on va dire. Il y a quand même de bonnes équipes, avec de bons joueurs, de bons entraîneurs.
Voilà. Et d'ailleurs, tu as des joueurs qui ont percé en Ligue 1, on ne va pas citer plein de noms, mais qui ont joué en National, qui, échouant en centre de formation, sont retrouvés en National, ont flambé, sont retrouvés en Ligue 1. Le Paul, l'avant-centre de Rennes, qui joue à Angers l'année dernière.
Oui, Esteban Le Paul.
Voilà. Ou alors Benatab, le jeune qui jouait à Aubagne l'année dernière.
Et qui est retourné du côté de Nantes et qui joue pas mal de matchs avec Luis Castro sous les couleurs du FC Nantes.
Qui est quasiment tout le temps dans le groupe, même s'il n'est pas toujours titulaire.
Ouais. Je veux dire, déjà, le fait d'être dans un groupe d'une équipe évoluant en Ligue 1, ça lui apporte énormément d'expérience du haut niveau.
Mais ça te montre qu'il a la chance, il y a des bons joueurs,
de pouvoir se frotter à ce qui se fait de mieux au niveau national.
Oui. Oui, c'est sûr. Voilà, donc Aubagne, c'est bien. Ils sont 8e, c'est au milieu. C'est bien. Et qu'ils continuent comme ça, ils ont beaucoup de mérite. Et en plus, c'est pas mal. Ils jouent pas mal, quoi. C'est intéressant, c'est bien structuré.
Le prochain rendez-vous pour cette équipe d'Aubagne-Herbel, ça sera un déplacement la semaine prochaine, comme les filles, les Marseillaises, à 19h30 sur la pelouse de la Berrichonne, l'équipe de Châteauroux.
Oui.
Voilà. Donc, pour cette équipe de nationale, on espère que pour les Aubagnais, ils vont remettre le bleu de choix pour repartir de l'avant. Oui. Et voilà, juste un petit rappel, donc, dans ce championnat national, le leader est cette équipe de Rouen. Voilà, Rouen qui est premier avec 24 points sous les ordres de Régis Brouard, qui travaille aussi en tant que consultant
sur la chaîne L'Équipe.
Voilà.
Qui est un entraîneur qui a entraîné en Ligue 2.
Qui était sur le banc du Sporting Club de Bastia, l'année dernière.
Quand il était parti entraîner au Luxembourg, il avait gagné la Coupe du Luxembourg, un truc comme ça. Voilà. Même si c'est un pays un peu moins. Et qui s'était fait connaître par la Coupe de France et par un parcours de... Je crois que c'est, je ne sais plus quelle équipe, Carquefou, Quevilly. Quevilly, voilà.
Et où il avait flambé. C'est sous les ordres de Quevilly.
Voilà, et c'est là qu'il est passé en seconde division.
Voilà. Voilà, ben c'est ce qu'on soulignait juste auparavant.
Oui.
Voilà, on a fait le tour en ce qui concerne le national. Bon, on va vite passer sur la Ligue 1, donc on va évoquer l'Olympique de Marseille. Je vais vite rapidement revenir pour nos auditeurs sur les résultats avec pas mal de buts, une orgie de buts, j'ai envie de dire, à l'occasion de cette 8e journée qui avait démarré par un très bon match nul vendredi entre le PSG et Strasbourg au Parc des Princes, 3 buts partout. Ensuite, samedi, donc Nice a eu la bonne idée de battre Lyon 3-2 à l'Allianz Riviera. Un peu plus tard, Angers et Monaco pour la première de Pocconoli sur le banc monégasque se sont quittés sur un score nul de 1 but partout. Et enfin, dans la soirée, en ce qui concerne samedi, l'OM a pulvérisé Le Havre 6-2, on va y revenir en partie. Dimanche, Lens a battu le Paris FC 2-1. Rennes et Auxerre se sont quittés sur un score nul 2 partout. Toulouse a battu Metz 4-0. Nantes a été défait à la maison face à Lille 2-0 pour la clôture de cette 8e journée. Voilà, donc, et grâce à ce succès large face au Havre et au bénéfice du match nul du Paris Saint-Germain face à Strasbourg, donc l'Olympique de Marseille a pris la tête du classement de cette Ligue 1 avec meilleure attaque et meilleure défense. Voilà, un petit point d'avance sur le Paris Saint-Germain.
Mais c'était d'ailleurs, pour s'il y en a parmi nos auditeurs qui l'ont vu, le match était un match intéressant. Première mi-temps, pas terrible, mais en deuxième mi-temps, quand on a vraiment pris le contrôle du ballon, puis les Havrais étaient réduits à 10, il y a eu une expulsion.
Ouais, le frère de Hugo Lloris, Lothier Lloris, qui a eu un geste maladroit qui a occasionné une expulsion de la part de M. De Chépy.
Oui, parce qu'il est pris par Aubameyang et il a le mauvais réflexe d'envoyer la main et d'arrêter le ballon de la main à la surface, donc pénalty. Et c'est le règlement, sévère. Mais bon, c'est le règlement.
Mais c'est vrai que dans ce cas-là, c'est la double rouge. Sentence.
Voilà, c'est la
carton
double
rouge et pénalty pour le joueur fautif. Voilà.
Et du coup, ça a permis à 10, les pauvres Havrais, tu les as explosés. Parce qu'ils couraient partout, mais au bout d'un moment, en fin de... En seconde mi-temps, tu craques, quoi. Et donc, on a pu marquer des très jolis buts. Mmh. Les buts du Havre étaient très beaux, d'ailleurs, aussi. Ouais. Sans dit en passant.
Il y a eu le premier but du petit Cacheta qui a ouvert le score très tôt dans cette rencontre. Et la reprise de volée aussi de l'ancien Nantais Abdoulaye Touré dans le temps additionnel.
Ah oui, qui est splendide.
Juste avant le sixième et dernier but d'Amir Mourillo, je crois, une minute après.
Oui, voilà. Dans les arrêts de jeu.
Voilà. Une très belle volée qui a mis Geoffrey Delange, qui remplaçait Geronimo Rouli à l'occasion de ce match, sans
réaction.
Sans réaction.
Mais... Ouais. C'est un dégagement de la tête, pas mauvais d'ailleurs, hein, sur un ballon, un centre. Et le mec, il a 25 mètres, il arrive, il frappe. Hein, voilà, de volée, pleine lucarne. Il en tire 100 fois, il le met 99 fois dans les tribunes. Ouais. Mais là, il a mis dedans.
Là, il a tenté et ça fait
bravo,
mouche.
Bravo, super bravo lui, but. Et de là, je ne peux rien faire. Sur le premier non plus, d'ailleurs, c'est un classique. Le mec, il rentre, il est... Une erreur de marquage parce qu'il a manqué un joueur pour le charger, Cacheta, qui est effectivement un bon petit joueur. Et une belle frappe enroulée, un petit filet, le gardien ne peut rien faire. Mm. Mais ça a été un match intéressant. Et surtout, bon, y a eu 4 buts de Mason Greenwood qui te montre que c'est quand même un joueur hyper talentueux. Le problème étant que il est parfois un peu tendance à disparaître ou à être un peu...
Ouais. Ah ben on va y revenir, puisqu'on va évoquer la prestation de Mason Greenwood hier soir sur la pelouse du Sporting en Ligue des Champions. Et c'est vrai que pour souligner un tel exploit, ben la dernière fois que ça s'est produit, c'était en 1991. C'était un certain Jean-Pierre Papin qui a quitté le club il y a quelques temps, qui avait réussi cet exploit. Voilà, ouais. 34 ans qu'un joueur sous les couleurs de l'OM n'avait pas réussi un tel exploit, un quadruplé pour le joueur anglais de l'Olympique de Marseille, Mason Greenwood. Et, bon.
Ah oui, oui. Alors, le premier, c'était un pénalty, mais les trois autres, c'est de belles actions. Et...
Des actions bien construites, bien amenées par ses partenaires.
Voilà, oui. Et... Il y a eu deux d'entre elles où tu vois que ça sert d'avoir les deux pieds parce que le second, contrôle du droit, frappe. Non, c'est sur le troisième, contrôle du droit, frappe du gauche. Pif, pouf, voilà. Ça sert d'avoir les deux pieds et effectivement, c'est efficace. Mais ça, que c'est un joueur de talent, on le savait. Hein. Après, c'est vrai qu'il a des fois des moments où il disparaît un peu dans les matchs.
Ouais, on l'a vu souvent se faire appeler à l'ordre la saison dernière pour nos auditeurs. Sa première saison sous les ordres de Roberto De Zerbi, où il a fallu le remettre un petit peu en selle pour vraiment... Mais c'est vrai que Mason Greenwood, on l'attend dans les grands rendez-vous. Je pense que c'est un joueur... pétri de talent. Bon, on a vu que pour l'instant, il n'a toujours pas décidé de son avenir international, puisqu'il hésite encore à rejoindre la sélection jamaïcaine. Et bon, peut-être qu'il espère toujours un geste de la part du sélectionneur anglais, Thomas Tuchel. Mais bon, apparemment, aux dernières nouvelles, il n'est pas dans les petits papiers du technicien allemand, l'ancien coach du Paris Saint-Germain, qui a repris cette équipe anglaise.
Il a quand même dit, mais il faut savoir que comme il avait eu, nos auditeurs le savent probablement, une histoire de violence conjugale.
C'est ce qui a fait énormément polémique avant son arrivée et qui a peut-être buté certains clubs de l'embaucher. Après une bonne saison en Espagne, dans la banlieue de Madrid, avec le club de Getafe.
Mais c'est une histoire, il avait 18 ans, c'est une connerie, c'est inacceptable, mais c'est une erreur. Et c'est vrai que ça l'a barré en équipe d'Angleterre. Parce que, voilà, c'est...
Toi, tu penses, Patrick, ça peut éventuellement le poursuivre pour son avenir international. On sait que...
En Angleterre, il y a...
On est à 8 mois d'une Coupe du Monde.
Sais que les clubs anglais savaient que tu le signes, tu vas avoir les organisations féministes et les organisations de gauche qui vont venir te reprocher d'embaucher un gars. Alors, c'est d'autant plus problématique que... il a été jugé tribunal des affaires familiales. Ils sont suivis par... ils ont un contrôle de la CAF en France et en Espagne aussi. Ils étaient suivis. Le tribunal vérifie qu'il n'y ait pas de problème. Il s'est marié avec la fille avec qui il a eu cette embrouille, grosse embrouille. Et ils sont mariés, ils ont même deux gamins maintenant.
Ouais,
maintenant donc les est, choses semblent.
Il est devenu père de famille, donc on pense que tout est rentré dans l'ordre
voilà,
à ce moment-là.
Mais ça reste quand tu as comme ça une accusation d'un truc grave, c'est très grave. C'est sûr que ça reste et que ça. Alors en France, ça passe. En Espagne, c'était passé.
Mais en Angleterre, avec les tabloïds et toute la presse spécialisée, c'est difficile. Hein. Et d'ailleurs, on voit quand même qu'il n'a pas une très bonne cote et une très bonne réputation auprès des
À Manchester, des Britanniques. Qui était son club d'origine, voilà. United.
Oui, parce que c'est vrai que c'est un pur produit de l'académie de United. Hein.
Voilà. Mais bon... C'est ça aussi, c'est un truc qui te renvoie au fait que quand l'affaire est arrivée, il avait 18 ans, il venait de signer son premier contrat pro après sa première sélection en équipe d'Angleterre. Mais comme il avait moins de 21, il peut changer de nationalité sportive. Il avait un salaire en pratiquement 1 million par mois.
Mais là, ça fait depuis un petit moment qu'il n'a plus côtoyé cette équipe des Free Lions, cette équipe d'Angleterre.
Il avait 18 ans, c'était sa première sélection. Et depuis, effectivement, il est banni de fait. Et à la limite, je dirais tant mieux pour nous, parce que si le mec il avait continué sur le niveau qu'il avait, il était au niveau d'un Cole Palmer, d'un Phil Foden, des trucs comme ça, d'un Bellingham, d'un jus de Bellingham.
Voilà, vraiment des joueurs qui brillent en première ligue ou en Espagne du côté du Real.
Au Real, estimé à 100 millions. Bellingham. Bellingham a été acheté 90 millions. Foden ou Cole Palmer sont estimés à une centaine de millions. Et lui, on a pu l'avoir à 31.
Et ce sont des joueurs formés dans des grands clubs de première ligue.
Qui à 17 ans jouaient en première ligue à Manchester United. Voilà. C'est pas rien. Voilà.
On sait que Phil Foden, c'est un pur produit de l'Académie de City. Ainsi que Cole Palmer qui fait les beaux jours de Chelsea actuellement.
Et, et donc, c'est des joueurs de grande qualité. C'est un joueur talentueux. Du niveau d'un Bukayo Saka Arsenal ou un truc comme ça. Après, le problème qu'il a, qui est certainement dû au fait que comme il a été déclassé, il a joué dans des clubs Retafe en Espagne et tout.
Parce qu'il était un petit peu barré, je pense.
Il était grillé.
Il était un peu persona non grata pour les dirigeants des clubs de première ligue. Voilà, donc,
il est resté 2 ans sans jouer, d'ailleurs. Voilà. Et donc, du coup, il n'a peut-être pas pris à une époque cruciale.
Ça l'a pénalisé sur le plan sportif. Et je pense que ça a dû avoir des répercussions sur son avenir en sélection. Hein.
Voilà, bien entendu. Et donc, il a, à une époque où tu apprends à faire le pressing, à défendre, enfin, que tu apprends à te comporter, parce qu'une équipe de jeunes, tu es tellement au niveau que tu te promènes, là, lui, il ne jouait pas. Et donc, c'est peut-être la raison pour laquelle, parfois, il a des creux importants dans les matchs. Mais ça reste quand même un garçon très talentueux.
Et on sait qu'il y a Roberto De Zerbi qui est à l'affût et qui est très, très derrière lui pour vraiment le remettre en selle sur les bons rails si jamais il peut s'éparpiller de temps à autre.
Mais là, d'après les infos qu'on a, il est carré, marié.
Cette année,
père
apparemment,
de famille,
je pense
qu'il
il a une très bonne hygiène de vie.
Il fait des efforts.
On voit qu'il est arrivé en début de saison affûté. Vraiment, il avait hâte de reprendre saison avec l'Olympique de Marseille.
Il a fait des matchs amicaux de belle qualité. Et c'est vrai que par rapport à l'année dernière, il est un peu plus concerné. On l'a vu contre le PSG au Vélodrome, le match qu'on a gagné 1-0, où il a travaillé défensivement, ce qui avant faisait pas, quoi. Et d'ailleurs, on en reviendra quand on parlera de la Ligue des Champions sur le pourquoi De Zerbi l'a sorti à la mi-temps.
Parce que je pense que on a eu un élément de réponse avec Roberto De Zerbi chez nos confrères, nos amis de Canal+ à la fin de la rencontre. Mais bon, malgré ça, je crois que tous les supporters de l'Olympique de Marseille et nos auditeurs peuvent douter de la réflexion et des explications livrées par le technicien italien hier soir. Concernant le remplacement de Mason Greenwood à la mi-temps de ce match face au Sporting.
Voilà, on va terminer sur le championnat contre le Havre, très bon match.
Voilà.
Du spectacle, c'était très agréable à voir.
Voilà.
Très belle ambiance, moi j'ai beaucoup apprécié. Il y avait Steve Mandanda qui était là.
Oui, c'est vrai qu'on peut le rappeler. Voilà, c'est Mandanda qui a donné le coup, de, le coup d'envoi fictif et qui a été honoré avec le numéro 30 qui a été retiré par les dirigeants. Voilà, après 613 apparitions sous les couleurs de l'Olympique de Marseille, le gardien international et champion du monde qui a tiré sa révérence il y a quelques semaines. Après avoir longtemps hésité sur une éventuelle suite de carrière.
Oui, mais je pense qu'à 40 ans, il n'y avait pas de proposition qui l'intéressait. Parce que
on l'a vu aussi qu'il a disputé quelques minutes à l'occasion de la dernière journée avec le Stade Rennais.
Au Vélodrome l'année dernière.
Abi Bey qui lui a donné quelques minutes.
Histoire d'avoir une belle ovation du stade. Voilà. Mais c'est vrai que ça faisait plaisir. Le stade debout qui l'applaudit et qui chante sa chanson là, « Oh, il phénoménal, il phénoménal, Mandanda ». Ça doit faire drôle pour le gars. Et puis, c'était vraiment très, très sympa. Et là, samedi dernier, il a été très applaudi. Il est venu donner le coup d'envoi fictif. Ouais. Et je crois que c'est parce qu'il va devenir commentateur télé. Hein,
Il rejoint l'équipe de Canal+ en tant que consultant.
Voilà. Et donc il va travailler sur
Canal+ qui détient les droits de retransmission pour les clubs français et toute l'intégralité des compétitions européennes et notamment la Ligue des Champions. Donc on devrait revoir il phénoménal Mandanda prochainement.
Oui, au Vélodrome, mais je pense qu'ils le mettront au Vélodrome.
Ouais.
Qui refusera le
micro bien sûr,
Steve.
Après c'est son club de cœur, donc on le verra en espérant que l'Olympique de Marseille fera un très bon parcours dans cette compétition des champions. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Juste, Patrick, je voulais revenir aussi sur la blessure, on ne l'a pas évoqué, de Amine Louiri pendant la trêve internationale, attaquant algérien et une force vive en moins pour Roberto De Zerbi. On sait que l'international algérien a eu un gros choc à l'épaule. Lui qui avait déjà subi un choc il y a quelques semaines face à Lorient avec une épaule fragilisée. Et il est passé sur le billard. Il a été opéré en début de semaine. L'opération s'est bien passée. Et, il va rater la Coupe d'Afrique des Nations au mois de décembre avec sa sélection nationale, Algérie, les Fenech de Vladimir Petkovic. Et donc, on espère le revoir probablement après la trêve
En février,
hivernale.
Normalement, puisque d'après ce que disait le
trois mois d'indisponibilité.
Trois mois, ça fait novembre, décembre. Et de toute façon, s'il avait été à la CAN, il n'aurait pas été là. Je parle du mois de janvier, évidemment. Par contre, avant, c'est vrai que dans la rotation, il manque parce que Vaz, qui est un excellent joueur.
Ça profite à l'éclosion du petit Robinho Vaz, qui a déjà montré de belles choses.
Très belles choses.
Face à l'Ajax, face à Metz. Et là encore.
Et contre le Havre, il a mis.
Contre le Havre, il est rentré, il a marqué. On voit qu'il joue sans complexe. C'est bon.
Oui, c'est un bon joueur, mais en termes d'expérience. Et puis,
c'est vrai que malheureusement, il s'est blessé juste avant la trêve et donc il n'a pas pu honorer une sélection avec l'équipe de France des moins de 19, je crois. Il y avait deux matchs amicaux qui se déroulaient du côté de l'Espagne à Marbella.
Oui, il n'a pas pu parce qu'il était blessé.
Il était blessé, mais bon.
Mais c'est un joueur très intéressant, c'est un jeune de qualité, mais c'est vrai que Guiri, il a l'avantage, il peut jouer ailier gauche éventuellement, il peut jouer en 10, en 9,5 plutôt. C'est un garçon qui est assez très technique, polyvalent, et comme il avait marqué contre Metz...
Oui, juste avant la trêve
internationale. Voilà, on pouvait espérer...
Il était sorti du banc, et il avait marqué le troisième et dernier but pour l'Olympique de Marseille.
Et il avait été passeur décisif sur le second. Donc
il avait fait une très bonne entrée, lui qui n'avait pas démarré lors de ce match.
Excellente rentrée. Voilà, et on pouvait espérer retrouver le Guiri du début d'année 2025 où il avait porté l'équipe. Malheureusement, alors je ne sais pas si nos auditeurs ont vu les images du choc.
C'est quand même assez impressionnant pour avoir vu les images de la rencontre qui était retransmise chez nos amis de l'équipe face à l'Ouganda lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde 2026.
Ah ouais. Le goal est sorti, genou en avant, il est sorti.
On a
quand
eu
même
très très peur. Puis bon, après, c'est vrai qu'il est resté avec sa sélection qui a été honorée à Alger, reçue par le président pour les féliciter de leur qualification pour la prochaine Coupe du Monde.
Voilà.
Mais c'est vrai qu'après, ben, lorsqu'il est rentré à Marseille. Après avoir être passé par, entre les mains du staff médical de l'OM, ben, la sentence est tombée, ça a été opération, mais bon, voilà.
Je pense,
on espère le revoir le plus rapidement possible. Au niveau des délais, 3 mois, donc 3 ça
mois.
Fait février.
Je pense que c'est, en fait, dans le choc, la tête, ça va, puisqu'ils ont fait les examens, il n'y a pas eu de protocole commotion, ça allait, ouais. Mais l'épaule déboîtée, ça devient chronique, comme il s'était fait, comme tu le disais, contre Lorient.
Il avait déjà eu un souci à l'épaule il y a quelques semaines.
Et moi, ça me renvoie à Bounassar il y a quelques années, qui lui avait le problème, ou alors André Ayou il y a beaucoup plus longtemps.
Mais c'est vrai que tu fais bien de le rappeler. Il y a pas mal de joueurs dans le passé qui ont eu des problèmes récurrents au niveau de l'épaule. Et c'est vrai que c'est...
Elle se déboîte en permanence.
Après, bon, on peut la remettre en place. Joueur peut continuer à jouer, mais bon, après, lors d'un choc ou quoi, ça...
Après, tu as le problème que l'adversaire le sait, que donc tu vas avoir des charges à l'épaule assez rugueuses.
Il y a une forme d'appréhension aussi de la part du joueur qui n'ose pas aller au contact et se livrer totalement par rapport à une éventuelle épaule endolorie comme ça, qui a subi plusieurs chocs à maintes reprises.
Voilà, tu as le frein à main. Et à la limite, l'opération, même si c'est dommageable, parce que lui, ça va lui faire rater la canne, donc c'est quand même
C'était quand même un grand rendez-vous pour lui, pour la sélection algérienne. C'est quand même une compétition qui compte sur le continent africain.
Mais je pense que la réflexion a été de dire, tu vas être ciblé, et si ça devient chronique, tu te la déboîtes pratiquement tous les 15 jours. Ouais. Et après, effectivement, il y a la douleur, il y a un handicap.
C'était la meilleure option, la meilleure solution.
Oui, c'est la solution d'avenir. Parce que là, au moins, on te remet bien en place et ça redevient normal. Donc, c'est un choix qui a été fait. Je pense que ça indique que le staff pense que Robinho Vaz peut faire le boulot. C'est une bonne chose pour lui. Parce que
Sachant aussi qu'à l'occasion de cette CAN, il y aura une fenêtre de tir concernant le mercato hivernal.
Oui.
Donc, il y aura toujours une possibilité pour les dirigeants marseillais côté du board de l'Olympique de Marseille de recruter un éventuel attaquant qui puisse compléter l'effectif pour compenser la blessure de Amine Gouiri.
Et surtout que pendant la CAN, normalement, Pierre-Emerick Aubameyang et Ahmed Junior Traoré, le remplaçant de Peck Shaw,
qui est également à l'infirmerie actuellement, avec Geoffrey Kondogbia aussi, qui évolue avec la République centrafricaine.
Voilà, et on va
et Facundo Medina, qui n'est pas concerné par la CAN, on espère retrouver à la Coupe du Monde sous les couleurs de l'Argentine.
Oui, et Medina, il a intérêt à revenir, mais il reviendra normalement courant novembre, parce qu'à la CAN, on perd aussi Naïef Aguerd.
Oui, voilà. Je pense que l'absence du défenseur marocain sera préjudiciable.
Très préjudiciable. Et Aubameyang devant. Ahmed Traoré, c'est comme Kondogbia, c'est des remplaçants, tu peux tourner sans eux, mais
là ça fait quand même toute la ligne d'attaque concernée par les sélections africaines à l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations.
Ah oui, 3 joueurs, et disons que c'est un problème. C'est peut-être effectivement il y aura une obligation à recruter, mais rapidement, parce que tu vas pas attendre le 25 janvier, les mecs ils reviennent, je veux dire, ils reviennent fin janvier.
On va rappeler une fois de plus pour nos auditeurs que le début de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le 21 décembre. La finale et la fin de la compétition, ce sera le 18 janvier.
Voilà.
Après, pendant ce laps de temps, il y aura pas mal de matchs. Il y aura le trophée des champions qui se disputera au Koweït face au Paris Saint-Germain. Et puis trois jours après la finale de la CAN, il y aura la réception de Liverpool en Ligue des champions pour cette avant-dernière journée sur la phase régulière.
Ce qui peut être problématique, parce que tu parlais de Amine Gouiri qui est resté en Algérie pour aller être reçu parce qu'ils sont qualifiés à la Coupe du Monde. Ça se joue au Maroc, la CAN, et le Maroc est le grand favori, et à théorie, c'est la meilleure équipe. C'est vrai qu'à Guerde, si jamais le 18 il gagne, je ne te dis pas comment il va avoir la fête.
C'est vrai qu'on parle beaucoup du Maroc, mais c'est vrai qu'il y a eu la victoire des jeunes dans le championnat du moins de 20 ans au Chili face à l'Argentine ce week-end, dans la nuit de dimanche à lundi. Voilà.
Oui, chez nos confrères, chez nos collègues de
avec
l'équipe.
Avec le petit Dessim, joueur de l'US Dunkerque, qui est Marseillais et qui a réussi une très belle compétition.
Voilà. Et tu as vraiment des très beaux joueurs dans l'équipe du Maroc.
Hein. Et juste, on peut rappeler aussi pour nos auditeurs qu'au mois de novembre, il y aura aussi les matchs de barrage de la zone Afrique qui se disputeront sous forme d'aller-retour pendant la fenêtre de trêve internationale au Maroc.
Oui, en fin novembre. Et donc c'est sûr que ça peut être un problème, parce que si le mec il gagne la CAN, je ne le vois pas trois jours après, être contre Liverpool au Vélodrome.
Parce que ça va
être très compliqué. Et c'est sûr que c'est un problème, parce qu'on a pu voir depuis qu'il est arrivé à quel point c'est un joueur stable, calme.
Oui, il a apporté beaucoup de sérénité. Et c'est vrai que,
entre lui et Pavard, ils ont apporté une sacrée sérénité. Et c'est peut-être pour ça aussi que Balerdi fait de meilleurs matchs.
Ouais.
Parce qu'il est plus en confiance, entouré des deux monstres. Et donc, donc ça sera. Mais en fait, on a le temps, ça sera dans deux mois et demi. On verra
comment ça évolue.
On verra où on en est à ce moment-là. Parce qu'en Ligue des Champions, quand on recevra Liverpool, j'espère qu'on ne sera pas obligé d'attendre 6 points sur les Liverpool et le match à Bruges pour se qualifier. Parce que
c'est vrai qu'on va y revenir, puisqu'on va évoquer la Ligue des Champions et cette troisième journée qui voyait les Marseillais se déplacer au Portugal hier au stade Alvalade face au Sporting. Et on a vu un OM à deux visages, séduisant en première mi-temps et sombrer en deuxième après l'expulsion et ce double carton jaune infligé à Emerson, l'Italo-Brésilien arrivé cet été.
Qui avait fait un très bon match en première mi-temps.
On voit que depuis qu'il est arrivé, il a pris sa place en tant que piston dans cette équipe de Roberto De Zerbi. Il joue, il enchaîne les rencontres et plutôt bien avec beaucoup d'à-propos.
Alors lui qui a la réputation d'être plutôt un piston, même quand on joue en défense à 4, il joue arrière-gauche. Ouais.
Et je ne sais pas si tu te rappelles, lorsqu'il a gagné le championnat d'Europe des Nations en 2021 avec sous les ordres de Roberto Mancini, la position dans laquelle il évoluait, et puis après, on a vu comment il a été utilisé du côté de Chelsea, ou même récemment, juste avant de venir à l'OM, à West Ham.
Ouais. Et oui, il était piston. Ils alternaient avec Di Marco, le joueur de l'Inter Milan, comme piston
Frédérico
gauche.
Di Marco.
Il a une très belle qualité de centre. Et il a quand même du vice à l'italienne pour défendre. C'est pas un piston comme à la Trent Alexander-Arnold.
C'est vrai qu'après, il a eu un petit passage difficile en France du côté de Lyon.
Il
n'a pas marqué les esprits du côté de la capitale des Gaules.
Il a quand même... C'est quand même un gars qui a été champion d'Europe avec l'Italie en 2021, qui a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea, qui a gagné l'Europa League avec Chelsea, et il y a 2 ans, il a gagné l'Europa Conference avec West Ham.
Ouais. Il a quand même un CV, il a gagné plusieurs fois les Coupes d'Europe, l'Europa League et la Champions League.
C'est un sacré joueur.
Ça situe le personnage.
Voilà. Et c'est d'ailleurs surprenant que hier, il se soit fait... Après, comme j'écoutais après un peu les commentaires, parce que là, sur les réseaux sociaux, ce matin, il se fait massacrer, comment il a pu faire une telle erreur.
Mais on a vu aussi que cette équipe du Sporting, là, elle était quand même en difficulté ces derniers temps, en championnat. Elle a gagné le titre l'année dernière, mais elle s'est quand même inclinée face à Porto, face à Benfica, les rivaux historiques à l'échelon national. Et puis elle s'est qualifiée difficilement lors d'un tour de coupe du Portugal après prolongation le week-end dernier face à une équipe de division inférieure. La confiance était plutôt dans le camp marseillais, j'ai envie de dire.
Mais il y a quand même un truc qu'il faut savoir sur le championnat portugais, qui est un très beau championnat. Hein, on dit que la France est le 5e, le Portugal le 6e, mais en fait, il y a 3 gros clubs, Benfica, Lisbonne et Sporting, Portugal, mais qui joue à Lisbonne.
Le Benfica qui a vu le retour de José Mourinho et qui et... va pas très fort en ce moment en Ligue des Champions.
Parce que le problème, incliné. Comme Porto d'ailleurs, voilà. dont le président n'est autre que l'ancien entraîneur.
André Villas-Boas, le rappel, qui était sur le banc de l'Olympique de Marseille il y a quelques années.
Qui était un bon entraîneur. Mais parce que le problème des clubs portugais, c'est qu'ils ont. Ils ont toujours fait leur force, c'est pour ça qu'ils ont gagné Porto avec Mourinho, entraîneur, la Ligue des Champions et tout. Mais c'était au début des années 2000, parce qu'ils faisaient venir beaucoup de joueurs d'Amérique du Sud.
Ouais. C'est vrai que les cellules de recrutement travaillent beaucoup avec le continent sud-américain.
Très bien. Par exemple, Angel Di Maria, que tout le monde connaît pour le Real ou le PSG.
Moi, il y a un exemple qui me vient de suite à l'esprit, c'est l'arrivée, pour l'avoir suivi cet été de la Coupe du Monde des Clubs, c'est Richard Rios, ce milieu terrain colombien qui arrive tout droit de Palmeiras et qui a débarqué au Benfica Lisbonne.
Voilà, qui est un super joueur.
Très bon joueur.
Alors, ils arrivent à faire, mais tu le vois, par exemple, quand tu regardes le PSG, je regarde, même si j'espère pas toujours qu'ils gagnent, mais je regarde.
Non, mais bon, après...
mais quand tu vois Neves, Vitinha, Nuno Mendes et tout, ça vient de ces trois clubs, Porto, Benfica, le Sporting. Et ils partent de plus en plus jeunes.
Nuno Mendes, qui a fait un match remarquable à Leverkusen, et qui est peut-être, comme on dit, méconnu du grand public, l'un des meilleurs latéraux gauche.
Probablement même le meilleur, parce que il est défensivement, moi je trouve qu'il a beaucoup progressé.
Et c'est un joueur, un pur produit du Sporting. Hein.
Il a été formé au Portugal, et il est arrivé à 20 ans à Paris. Alors, ils ont payé 50, 60, enfin voilà, hein, c'est sûr. Et les Portugais recrutent beaucoup, puisqu'actuellement, là, ils ont une pépite Porto qui s'appelle Moura, Ricardo Moura.
Oui, Ricardo Moura, dont on a évoqué le nom cet été, on en parlait beaucoup.
Paris Saint-Germain, entre autres et tout. Il a 18 ans, il a une clause à 100 millions. Quoi. Enfin, il partira à 70, 80. Mais les mecs partant de
Ce jeune Moura qui a déjà disputé quelques minutes en équipe A du Portugal sous les ordres de Roberto Martinez. Technicien espagnol à la tête de cette nation portugaise.
Qui est une très belle équipe d'ailleurs. Et ils ont des mecs qui partent de plus en plus tôt. Alors qu'avant, ils restaient jusqu'à 23, 24. Ce qui faisait que Benfica, Porto ou le Sporting avaient des équipes qui arrivaient régulièrement en quart de finale ou huitième de la Ligue des Champions.
Mais là, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de joueurs portugais s'expatrier dans les grands championnats européens. Bon, après,
en Angleterre, très souvent, parce que l'Angleterre a beaucoup d'argent. Et donc, le problème, c'est qu'ils perdent des mecs de plus en plus vite. Et donc, ils ont du mal à stabiliser des équipes, puisque hier, ceux qui ont vu le match contre... Enfin, on est jeudi, hein, donc on enregistre justement jeudi pour pouvoir parler... débriefer le match d'hier soir.
Voilà.
Et l'avant-centre Luis Suarez, qui avait joué à l'OM...
Qui a fait un passage... Assez furtif du côté de l'Olympique de Marseille.
Voilà. Mais
qui s'est refait une belle santé en Espagne et qui brille de mille feux depuis le début de la saison les ordres de Rui Borges avec cette équipe du Sporting.
Il remplace le fameux Victor Gyökeres,
qui est
parti
Arsenal.
Voilà. 80 millions d'euros.
Et c'est vrai que cette équipe du Sporting aussi, elle a perdu un grand entraîneur, la personne de Ruben Amorim, qui est parti en Angleterre, donner un coup de main à Manchester United.
Voilà, et donc si tu veux, moi je pense que c'est une équipe qui sont des équipes, les trois, parce que les trois c'est le même, les trois sont en Ligue des Champions.
Oui, les trois mastodons.
Et les trois ont le même problème, trop de joueurs qui s'en
vont vite. Cette année, le FC Porto est en Europa League.
Oui, mais ils sont bien classés, ils sont dans les qualifiés probables, parce que le niveau est un peu plus faible. Mais par contre...
Le FC Porto qui a sur son banc une ancienne connaissance de la Ligue 1, la personne de Francesco Farioli,
l'ancien entraîneur de
italien
Nice,
passé par l'OGC Nice.
Voilà. Et donc, du coup, ils ont quand même une culture. Et moi, je pense qu'hier soir, en regardant le match, une équipe moins expérimentée, il y en a, il y a des Chypriotes, des Kazakhs, des Norvégiens en Ligue des Champions, Bodø/Glimt, belle équipe, hein, mais tu n'as pas la culture... Coupe d'Europe comme ces trois clubs portugais.
Contrairement à ces équipes portugaises qui arrivent à avoir des résultats meilleurs que la France. On le voit aussi au niveau de l'indice UEFA, puisque les deux pays se tiennent.
On se tire la bourre.
Voilà.
Et
entre la France et le Portugal.
Benfica, qui pourtant est à zéro, est à, je crois qu'ils sont à zéro point.
Zéro point.
Zéro point en Ligue des Champions en trois matchs, trois défaites.
Ils ont enregistré trois défaites malgré l'arrivée, le retour de José Mourinho sur le banc.
Voilà, ils ont explosé l'OGC Nice en barrage, 2-0 à Nice, 2-0 chez eux. Ils les ont mangés.
Et cette équipe de Benfica qui avait sorti aussi l'AS Monaco l'année dernière.
Oui, l'année dernière.
Je pense qu'on peut le rappeler pour nos éditeurs.
C'est du costaud. Et ils ont quand même eu cette expérience européenne qui fait que dans les déplacements, dans le staff, dans le club, il y a une culture. Il y a toujours quelques joueurs qui ont 40, 50, 60 matchs. Et ces mecs-là, ça compte. Et hier, on l'a vu, avec des joueurs d'expérience qui ont repris en main, qui ont remonté. Parce que pour moi, je ne sais pas ce que tu en penses, je suppose que tu es entièrement d'accord, Thierry, mais c'est l'expulsion d'Emerson qui fait basculer le match.
Ah ben totalement, je pense que s'il n'y a pas ce double carton jaune et cette expulsion qui intervient juste avant la mi-temps, avec cet avantage et ce magnifique but d'Igor Paciao en début de rencontre, je pense que ça peut tourner en faveur de l'OM. Mais bon, là, malheureusement, avec cette expulsion...
Et oui, ça... parce que tu mènes 1-0. Tu aurais pu mener plus qu'un 0, d'ailleurs.
Alors, je pense qu'il y a beaucoup de critiques sur l'arbitrage en Corse. Oui. L'arbitrage de M. Obranovic, qui est novice à ce niveau, là, l'arbitre slovène qui a été désigné par l'UFA pour diriger cette rencontre hier soir à Lisbonne. Je ne sais pas ce que tu en penses, Patrick.
Je pense que c'est le même truc qui nous est arrivé samedi contre Le Havre, un championnat.
Ça commence à faire beaucoup sur ces derniers temps, ces dernières semaines, les problèmes d'arbitrage, que ce soit en championnat de France ou en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions.
Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas qu'un problème d'arbitrage, parce que je disais le match contre Le Havre. Bon, Aubameyang, il lobe, enfin, il passe Gauthier Loris.
Après, je faisais la réflexion.
Et l'autre met la main.
Il y avait déjà eu la polémique concernant le pénalty concédé au Stade Bernabéu face au Real. La faute de main de Facundo Medina il y a un peu plus d'un mois. Donc là, ça fait quand même une accumulation de problèmes qui fait. Ça commence à faire lourd dans la balance.
Moi, je pense qu'il y a. À Madrid, c'est un arbitrage Real Madrid. On sait que le Real ne fait pas une erreur. Eux, ils font la même faute, elle n'est pas sifflée. Toi, tu l'as fait, tu es sifflé. C'est le Real, c'est le club qui est archi-avantagé. Ils gueulent tout le temps en compte, mais c'est aussi pour ça.
D'ailleurs, et là, je serais curieux de voir l'arbitre qui va diriger la rencontre face au Barça ce week-end.
Il y a
un classico ce dimanche après-midi.
Real Barça, j'aimerais pas être à sa place.
Je pense qu'il doit avoir une grosse pression, l'arbitre qui dirigera cette rencontre dimanche sur la pelouse du Real.
Voilà, parce que. Et là, par contre, moi, je pense ça que je le relis à l'histoire d'OM Le Havre, c'est l'application bête du règlement. Le mec, il fait une faute. Gauthier Loris, il met la main. Voilà. Emerson, il tente d'obtenir un péno en se jetant.
L'arbitre de la rencontre le championnat, M. De Chépy, qui était au sifflet samedi soir au Vélodrome.
Monsieur De Chépy, il met un jaune et il donne un péno. Le VAR l'appelle pour lui dire non, c'est rouge.
Voilà.
Et voilà. Et donc,
c'est pas la première décision
c'est le VAR qui l'appelle.
C'est le VAR qui fait que
Le règlement,
Gauthier Loris, le défenseur avril, se fait exclure.
Et moi, je sais qu'on en parlait avec les collègues en tribune, enfin, un virage. On disait, ça va, le jaune, c'est bon. Le mec, c'est un mauvais réflexe. La balle passe, il met la main, elle est décollée. Il n'y a rien à dire. C'est pas un tacle dangereux. Il n'a pas. Contre Lorient, il y avait eu un mec expulsé en début de match. On avait gagné 4-0. Le mec, il plaque. Il est pris, c'est Murillo qui est passé devant. Le mec, il le ceinture, il le plaque. C'est pas pareil. Là, tu mets en rouge. C'est une faute d'anti-jeu. Là, c'est une
ça
main.
Justifie davantage le carton
et
rouge.
Et là, je pense que le rouge était... Et moi, hier, oui, il y a simulation. Mais le mec, tu lui as mis un rouge, en plus un jaune hyper sévère pour une main involontaire. Yeah. Le mec lui a mal la balle sur la main. Voilà, il fait. Qui, en plus,
moi, je trouve que c'est toujours voilà, des sanctions disproportionnées.
Oui. Et il ne faut pas oublier, c'est en ça que le fait que tu le disais, c'est un jeune arbitre inexpérimenté. Ouais. Le règlement dit carton jaune pour simulation.
Mais oui, d'ailleurs, mais... je crois qu'à mon avis, on ne le reverra plus sur les pelouses de Ligue des Champions.
Il risque de se faire mettre un peu à l'écart. Ouais.
Je pense que les instances de l'arbitrage risquent de le rétrograder. Ah, et oui, peut-être qu'on le retrouvera davantage sur une pelouse de conférence Ligue ou de Europa League.
Ouais, ouais, parce que mais... tu fais ça au Real Madrid, tu n'arbitres plus jamais de ta vie.
Ah ouais. Mais j'imagine voilà. La réaction des dirigeants après voilà. Une telle
mais
décision.
Tu sais que si tu mets un jaune, c'est le deuxième, tu vas mettre un rouge.
Et forcément, ça entraîne une expulsion.
C'est un geste méchant, c'est un anti-jeu volontaire. Je parlais du joueur de Lorient qui avait plaqué Murillo, qui l'a ceinturé. C'était pas méchant, il a pas fait
mais
mal.
Mais c'était pas une faute intentionnelle.
C'est une faute intentionnelle de ceinturer et tout. Là, le mec est dans l'action, il est en plus, il est en pleine course, donc... Tu peux dire qu'il est un peu entraîné. À mon avis...
Il essaie de rattraper voilà, tant bien que mal.
Voilà, il anticipe le tacle et il tombe avant. Mais il y a quand même un joueur qui se jette pour le couper. Donc, je veux dire, tu aurais pu ne pas le mettre. Voilà. Et par contre, tu le mets pendant toute une mi-temps. À ce niveau-là, jouer à 10 contre 11, c'est très compliqué.
Ah ouais.
Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont fait en seconde mi-temps ce qu'on leur a fait en première, on les a fait courir.
Ouais.
Et là, c'est eux, sauf que tu es 10 et qu'à la fin du match.
Forcément, quand tu te retrouves en infériorité numérique, c'est pénalisant. Et,
comme par hasard.
Tu es obligé de redoubler d'efforts pour essayer de.
Le deuxième but vient à la 88, un truc comme ça, en toute fin de match. Hein. Et donc, c'est parce que tu prends la pression. On peut dire que, puisqu'on va parler un peu, je pense, de la polémique qu'il y a sur les choix de De Zerbi, comment il a fait le coaching.
Ben c'est vrai que par rapport à l'équipe de départ, déjà, on a retrouvé Arthur Vermeeren, qui était déjà titulaire il y a 3 semaines sur la pelouse du Vélodrome face à l'Ajax.
Ouais, ouais.
Donc, Mato Raillet s'est retrouvé sur le banc.
Ouais.
Voilà, c'était déjà un choix assez fort de la part de Roberto De Zerbi.
S'il y a un truc que moi, j'ai du mal à piger, après, il sort... un attaquant pour faire entrer un arrière-gauche, puisque Emerson, c'est un défenseur gauche, couloir gauche.
Donc, et d'ailleurs, il a expliqué au micro de Canal après le match.
Alors, il a dit...
Je pense que ce choix a été guidé par la sortie prématurée d'Emerson. Hein. C'est l'exclusion qu'il a fait penser comme ceci.
Donc, il faut faire entrer un latéral. Il a fait rentrer Murillo, qui, comme d'habitude, a fait le job, a fait ce qu'il il s'est battu, il a fait son match.
Ouais, c'est vrai.
Et donc, tu dois sortir un attaquant. Lequel tu sors? Aubameyang en profondeur, il est rapide. Peck Shao, il était en pleine bourre, il a mis un but.
Ah, il est en feu, l'attaquant brésilien. Ouais, il a marqué son 3e but hier soir. Lui qui avait déjà brillé
contre l'Ajax. Il a mis 2 jolis buts.
Et c'est vrai qu'en plus, j'ai vu que l'année dernière, sous les couleurs de Feyenoord, il avait fait un très bon match. D'ailleurs, je crois, auteur de 2 passes décisives sur la pelouse du Stade de la Luz, toujours à Lisbonne, face au Benfica.
Face à Benfica. Voilà. Et donc, il avait été excellent contre le Milan aussi.
Voilà. Moi, c'est mais c'est vrai qu'en plus, bon, c'est le Portugal, c'est plutôt un pays qui lui réussit pas mal.
Voilà,
c'est sa troisième, troisième participation à la Ligue des Champions, 2 fois avec le Feyenoord et cette année avec l'OM.
Voilà. Et donc, c'est un bon joueur et qui a une qualité, c'est qu'il défend, il travaille beaucoup. Et c'est vrai que le choix lequel tu sors...
Ce qui n'est pas forcément le cas de Mason Greenwood ou éventuellement Pierre-Emerick Aubameyang.
Voilà. Mais Aubameyang, c'est la pointe qui est très rapide et que tu peux balancer de loin et qui va obliger les autres, les défenseurs, à le surveiller parce que le mec, il est rapide. Et puis Aubameyang, il est connu dans le football européen.
C'est le seul attaquant.
Voilà,
il a une sacrée expérience au plus haut niveau. C'est vrai que sa compétition de Ligue des Champions, il a disputé à... avec
fois,
Barcelone, Chelsea,
je crois que j'ai vu hier,
Dortmund.
Avant le match, c'était sur l'équipe, il m'a noté les stats. Il a 102 matchs européens, dont une 50 et quelques de Ligue des Champions.
Je crois que là, dans l'effectif de l'OM, c'est le joueur le plus expérimenté sur le plan européen.
Et donc, tu le laisses parce que les mecs, ils vont t'obliger de rester derrière et pas le lâcher. Donc, c'est logique de sortir Greenwood, même si c'est un...
C'est vrai qu'après, avec l'absence et la blessure d'Amin Ouiri, c'est peut-être ton seul attaquant qui peut faire la différence devant. Donc, c'était difficile de s'en priver sur cette deuxième mi-temps.
Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'on a... On a remis la ligne de 4 en faisant rentrer Murillo à gauche. Et au lieu d'avoir 3 personnes en pointe, il n'y en avait plus que 2. Et celui qui saute, ben, ça a été Greenwood. C'est celui qui défend le moins. C'est pas choquant. Ce qui est plus surprenant...
C'était un choix plutôt logique de la part de Roberto De Zerbi.
Moi, je le dis, il a expliqué qu'à Lyon, l'année dernière, quand on avait eu... c'était Balerdi qui s'est fait expliquer.
Oui, Leonardo Balerdi, le fameux match où on
cette
gagne.
Cette année, c'est Egan Reilly qui a été expulsé. Les deux fois, il était passé en pointe, il était resté devant. Et les deux fois, il n'avait pas été très bon. Et c'est surtout dans le travail défensif, de pressing, gêner la relance. Donc ça, moi, ça me paraît une bonne décision. Sortir Vermeeren qui avait été bon. J'ai mal compris. Je pense qu'il espérait qu'O'Reilly, qui est plus grand et plus costaud, il serve dans le jeu d'un défensif, parce qu'il est bon de la tête, O'Reilly. Hein. Et puis, on l'a fait jouer en 10, milieu offensif, près des attaquants.
Mais on voit qu'il a été quand même en difficulté. L'ancien joueur de Brighton, sur cette deuxième mi-temps, puisqu'il a disputé toute la seconde période. Malheureusement, il ne s'est pas montré forcément son avantage.
Voilà. Peut-être il espérait que comme il joue régulièrement en passeur, il a une bonne qualité de passe. Ouais. Alors, il est un peu lent, à mon avis, mais il a une belle qualité de passe.
C'est vrai que c'est un de ses points forts, je pense, sur la qualité de passe.
Tu te dis, j'ai 2 pointes rapides, il va lancer. Je pense que c'est ce qu'il a pensé. Après, Wea, il le sort à l'heure et quelques, 65, parce qu'il est bouilli. Il n'a pas arrêté de cavaler. Il fait rentrer Garcia à gauche et il repasse Murillo à droite, qui est mieux à sa place.
C'est vrai que Ulysse Garcia, qui revient dans le groupe en Coupe d'Europe, avec la blessure de Facundo Medina, qui a pu être inscrit, lui, qui n'était pas dans la liste de l'UEFA pour le début de saison.
Qui est un bon soldat, c'est-à-dire le mec qui vient, il a fait le
maximum. On l'a vu depuis le début de la saison, lorsqu'il a joué en championnat et la saison dernière.
Et le mec, il était dans le loft cet été. Tu sais que tu aimerais le vendre, il est toujours là, mais quand tu fais appel, il fait son mieux. Après, il manque de rythme, parce qu'il ne joue pas beaucoup.
C'est vrai qu'il joue très très peu, donc dans un match européen comme ça, c'est difficile de trouver.
C'est difficile, mais il a fait ce qu'il a pu. Je pense que la sortie de Peck Shaw, c'est parce que comme il défendait beaucoup, il devait commencer à être bouilli. Et alors, par contre, Angel Gomez qui est rentré n'a pas fait grand-chose. Et puis après, à 5 minutes de la fin, il a fait sortir Aubameyang qui était mort.
Ouais, un peu plus à la 82e, Aubameyang sort avec l'entrée du petit Robinho Vaz.
Mais après, Robinho Vaz seul en pointe, parce que Angel Gomez joue au milieu, il est venu fermer au milieu, il est venu renforcer le milieu où on prenait l'eau, quoi. À 2 milieux, tu prenais l'eau, donc il est venu renforcer Angel Gomez, il était seul devant. Seul devant, le gamin, il a 18 ans, c'est compliqué. Il s'est battu comme d'habitude.
Oui, bien sûr. Après, on ne peut pas lui demander.
Tu peux pas. C'est sûr qu'Aubameyang, il aurait été capable de tenir jusqu'au bout. Mais après, Aubame, il s'est battu et il a couru. Mais tu te retrouves à courir d'un défenseur central à l'autre pour presser et gêner la relance.
Oui, mais après, on parle d'un joueur de 18 ans et un autre de 36 ans. Donc, je pense que forcément, Patrick, le poids des années, ça compte énormément dans un match européen et dans un match d'une telle intensité, d'un tel niveau.
Le truc, c'est que Vaz, il avait la force de courir. Mais Aubameyang, il avait l'expérience de garder le ballon.
C'est vrai qu'après, dans les choix...
Mais après, je pense qu'il n'a pas le choix. Aubameyang, je pense qu'il a essayé de le laisser. Parce que c'est le mec, sur une action, il peut te basculer le match. Et quand il a sorti, tu cherchais à tenir le 1-1 parce que tu commençais
C'était pas un mauvais résultat,
résultat.
Ça ne pouvait pas compromettre éventuellement la suite de la compétition.
Je rappelle qu'on était à égalité de points, 3 points avec le Sporting, qu'on avait meilleur goal average.
Mais là, donc, c'est vrai qu'on est, on occupait la 13e place dans ce classement de Ligue des Champions. Et puis bon, là, avec cette défaite, avec tous les résultats, ben, on a été relégué à la 18e. Voilà, on est avant la réception de l'Atalanta Bergame qui viendra au Vélodrome dans 15 jours.
Avec le problème, c'est que l'Atalanta dans 15 jours, là, tu n'as pas le droit de te rater. Là.
Ah ben là, c'est victoire. L'OM qui enchaînera deux matchs consécutifs au Vélodrome, puisqu'il y aura aussi la réception de Newcastle fin novembre.
Et il y a Newcastle et l'équipe qui vient en janvier, c'est Liverpool.
Voilà.
Alors,
sans oublier qu'avant la trêve internationale, il y aura un déplacement aussi du côté de Bruxelles face à l'Union Saint-Gilloise.
L'ancienne équipe de
Sébastien Pocognoli qui a été remplacé par David Hubert, l'ancien coach de Anderlecht.
Voilà, et qui est venu entraîner Monaco. Et c'est pas un cadeau, c'est l'Union Saint-Gilloise, mais c'est surtout le match, le dernier, le huitième au moins, à Bruges, qui est une belle équipe.
Malheureusement, bon, les clubs belges cette semaine, on peut dire qu'ils
ont
pris l'eau face à l'Inter. L'Inter de Milan et le Bayern de Munich en face.
Donc tu prends des
4-0. C'est quand même pas des équipes.
Tu en prends 4 contre le Bayern à Munich, c'est pas une honte. Quoi. Par contre, n'oublions pas que Bruges, ils ont mis 4-1 à Monaco.
Première journée.
Donc, c'est quand même une équipe qu'il faut prendre au sérieux. Donc là, contre l'Atalante...
L'Atalanta qui, cette semaine, a fait match nul en République tchèque sur la pelouse du Slavia Prague.
0-0, oui. Après, c'est des équipes, c'est le Slavia Prague, c'est des équipes pas mauvaises avec des bons petits joueurs.
C'est vrai que cette équipe de l'Atalanta, elle est méconnaissable cette année. On se demande d'ailleurs comment un tel coach, Ivan Juric... peut continuer encore parce qu'on voit qu'en Serie A c'est difficile.
Ils ont perdu.
Après bon, il y a eu la réintégration de Ademola Lookman, attaquant nigérian, qui n'est plus l'ombre de lui-même parce que on sait qu'il a été très affecté par son transfert avorté à l'Inter cet été.
Ouais, il a été placardisé, donc il s'est entraîné avec la réserve.
Son retour, on peut pas dire que il ait réussi. Performances tonitruantes.
Voilà, c'est quand même un joueur qui avait des propositions de l'Inter Milan en Italie. Le Bayern s'est renseigné, finalement ils ont pris Luis Diaz, mais il s'était renseigné sur lui et il avait des touches en Angleterre. Et donc, niveau salaire, c'est pas l'Atalanta Bergame. Donc c'est sûr que le mec, il est... dans la tête, il doit être en difficulté. Il espère partir en janvier, d'après ce qu'il se dit. Il souhaite s'en aller en janvier. Et donc, espérons que ça dure encore 15 jours, qu'on les reçoive et qu'ils ne soient pas dans le coup. Voilà. Parce que s'il est dans le coup, on se rappelle, il y a 2 ans...
On les a joués, l'Atalanta,
de l'Europa League.
En Europa League, voilà.
Donc, il nous avait
comment tu vois ces retrouvailles, toi, Patrick, au Vélodrome, dans 15 jours, là, cette équipe italienne qui revient...
Sur ce que je fais,
c'est plus l'Atalanta de Gasperini qui a quitté le club cet été pour rejoindre la Roma.
C'est plus l'Atalanta de Gasperini. Et
on la reconnaît plus. Je pense qu'il y a pas mal d'éléments qui étaient déjà là.
Mais c'est une équipe qui, chaque année, perd 2-3 joueurs importants. Là, ils ont perdu Coupe Miners, ils ont perdu des joueurs comme ça, qui étaient des joueurs qui étaient de Cotelaer, qui étaient que prêtés par le Milan, mais il était chez eux, et c'est des très bons joueurs, et les mecs sont bons, et tu as du mal à remplacer. Tu ne peux pas toujours choper le mec comme Lookman, qui est nigérian, qui vient d'un petit club, et puis qui explose. Ça, tu n'y arrives pas tous les ans. Et donc,
après, il y a une polémique aussi sur le poste de gardien de but. Carnet Sechi, qui a été appelé par Gennaro Gattuso tant que numéro 3 ou 4 la hiérarchie des gardiens avec la sélection italienne. Mais bon, c'est vrai que...
Moi, ce que j'avais vu, il n'était pas mauvais. C'était quand il avait joué contre nous il y a 2 ans, ou même l'année dernière, je l'avais vu 2-3 fois à l'Atalante en Ligue des Champions. Il faisait ses matchs, le mec. Après, ce n'est pas un top mondial.
C'est pas un Donnarumma, pour parler de...
C'est pas un Donnarumma, c'est pas...
Bon, c'est vrai qu'après, quand on regarde les 4 gardiens de la sélection italienne, il y a Donnarumma, derrière, il y a Vicario, le gardien de Tottenham, qu'on a vu hier soir au Stade Louis II face à l'AS Monaco avec les Spurs.
Très bon, qui est le numéro 2.
Voilà, il y a Marco Canessechi, le gardien de l'Atalanta, et il y a Alex Meret aussi, qui joue de temps en temps, puisqu'il est en concurrence avec Milenkovic-Savic du côté de Naples, avec Antonio Conte.
Voilà. Mais qui est quand même un gardien d'expérience. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un sacré escalier, entre une sacrée marche entre Donnarumma et même Vicario. Mm. Vicario, tous les dimanches, il est titulaire en Première Ligue, il fait ses matchs, enfin... Ils ont gagné.
Toi, tu considères que ce n'est pas le même écart que Geronimo Rulli et Martinez dans la sélection argentine?
Ah oui, je pense, oui. C'est-à-dire, Rulli, c'est un très bon gardien, mais Martinez, c'est un des top mondiaux.
Voilà, ouais.
Donnarumma, c'est un des top mondiaux. Vicario, peut-être pas, mais enfin, il est à la limite. Quoi. Mm. Il fait partie des 20, 30, voilà.
C'est vrai qu'après Vicario, c'était un gardien qu'on connaissait assez peu avant de son arrivée en Angleterre, à Londres, à Tottenham. Hein. C'est un gardien qui évoluait dans l'équipe d'Empoli, donc ce n'est pas une équipe qui joue les premiers rôles dans ce championnat italien.
C'est-à-dire, il a eu le même truc, en fait, parce qu'il y a eu les débats sur Chevalier, l'ancien goal de Lille, qui est au Paris Saint-Germain.
Qui a succédé à Gianluigi et Donnarumma été.
À Empoli, c'est une équipe de bas de tableau qui prenait des valises et il avait 15 arrêts par match. Quoi.
C'était un gardien qui était énormément sollicité, donc forcément.
Et après, la question, c'est une fois que tu vas dans un gros club, alors... Tottenham n'est pas une grande première ligue au sens, c'est pas Man City, c'est pas Arsenal. Hein. Ouais, ouais. Donc il a quand même beaucoup de travail.
Mais on voit quand même que cette année, sous les ordres de Thomas Frank, qui est arrivé de Brentford, de technicien danois, ça marche plutôt pas mal.
Oui,
bon.
Oui, ils sont
pas mal.
Je
sais pas si tu as eu l'occasion de voir un petit peu. Bon, il y avait l'OM qui jouait hier soir, mais bon, cette équipe de Tottenham sur la pelouse de Monaco. Pour cette troisième journée de Ligue des Champions. Bon, ça s'est soldé par un match nul 0-0, mais bon, je pense que. Ils doivent être quand même assez frustrés, les Monégasques, pour la première de Pocognoli, avec pas mal d'occasions.
À Canal, donc quand ils ont montré
les résumés. Il nous reste encore quelques minutes.
Oui, Monaco a eu plusieurs occasions nettes. Après, quand tu as les occasions. On peut dire ça sur l'OM en première mi-temps au Sporting Lisbonne. Quand il y a les occasions, il faut les mettre.
Ah ben c'est sûr que si tu ne convertis pas, tôt ou tard, ça risque de se retourner contre
et
toi.
Et Monaco, ils en ont eu plusieurs. Ouais. Alors, Vicario a fait un bon match, mais en fait, il a fait deux très gros arrêts. Mm. Le reste du temps, c'est des... Voilà, c'est... Moi, à Canal, ils ont parlé d'une occasion d'Akliouche. Crochet, il frappe, angle fermé... Au ras du poteau, enfin, je veux dire, si le gardien il le prend, tu le passes.
Il y a eu Balogun aussi, il y a eu pas mal de situations.
Balogun, il lui tire dessus sur ce que j'ai vu à Canal. J'ai pas vu le match, hein. J'ai vu le résumé, il lui tire dessus. Donc le mec est bon. Il a fait sur une tête de l'arrière latéral qui joue milieu de terrain, qui est hollandais, là. Son nom, Thèse.
Oui, Jordan, et qui avait marqué un magnifique but face à City
il y a 3 semaines. Il fait une tête superbe, mais il allumé à 1m50, mais poum, il a un arrêt réflexe à la Donnarumma, à la Courtois, le gardien du Real Madrid, le Belge. Il fait un arrêt, un très bel arrêt. Ouais. Mais il a les autres... C'est des frappes à l'angle fermé, c'est des mecs qui lui tirent dessus.
Mais c'est vrai que cette équipe de Monaco, ils ont affronté deux gardiens de la sélection italienne en 3 semaines. Voilà, alors, sur les 2 derniers matchs de Ligue des Champions. Bon.
Mais enfin, moi, j'avais vu le match en différé contre Manchester City, je les avais trouvés meilleurs. J'avais trouvé qu'ils étaient. Ils avaient mis 2 buts, ils avaient fait 2-2. Ils avaient de la chance de ne pas perdre, hein, parce que Man City a vendangé un peu, mais ils avaient fait un bon match. Là, offensivement, sur le résumé...
Après, on sait qu'il y a beaucoup d'absents du côté de l'AS Monaco. Bon, on devrait revoir Paul Pogba incessamment sous peu, mais bon... Il y a Vanderson qui est blessé, il y a Lamine Camara,
il y a surtout Zakaria.
Zakaria, le capitaine suisse, qui fait énormément de défauts.
Et ma foi, ils ont... Après, c'est le problème d'une équipe qui cherche des jeunes pour valoriser et revendre. Tu as des garçons, Biret, Balogun, Ansu Fati, Akliouche. C'est des bons joueurs, mais bon, à un moment donné, il faut aussi... On l'a vu...
Après, Madès Akliouche, qui a été utilisé quelques minutes face à l'Azerbaïdjan et l'Islande par Didier Deschamps. Donc,
oui, qui a fait une bonne rentrée en Islande, j'ai trouvé, moi.
Mais c'est vrai que, on a beaucoup parlé de lui. Je parlais d'un transfert raté l'été dernier. On a beaucoup parlé de lui du côté du PSG. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Il y a son compère de l'attaque, le petit Ben Seguir, le Marocain qui est parti à Leverkusen.
C'est peut-être pas la chose la plus intelligente qu'il a fait, parce que j'ai vu qu'il n'était pas titulaire et qu'à 19 ans, tu as besoin de jouer. Ouais. C'est d'ailleurs un problème.
Surtout par rapport à la sélection nationale. Je pense que Walid Regragui est dans la perspective de la Coupe d'Afrique des Nations et de la Coupe du Monde.
Et il veut des mecs qui soient...
Après, on sait qu'il y a quand même une forte concurrence avec cette sélection marocaine. Il y a Hamzaï Gamane, attaquant du LOSC, qui est arrivé cet été. Il y a Youssef En-Nesyri, qui brille avec Fenerbahçe en Turquie.
Et En-Nesyri, il a l'avantage énorme d'avoir fait la Coupe du Monde 2022.
Ouais, il était déjà...
D'avoir fait les CAN 18, 20 et tout.
C'est un joueur expérimenté
qui a joué en Espagne.
Au FC Séville, qui a gagné la Coupe d'Europe.
Qui a gagné l'Europa League avec le FC Séville. C'est un mec d'expérience. Et dans certains moments, tout à l'heure, on disait De Zerbi maintient Aubameyang parce que avec son expérience, il peut, sur une demi-action, te mettre un but.
C'est le facteur X dans une rencontre européenne, malheureusement.
Et c'est vrai que les jeunes, souvent, on se manque l'expérience et puis ils peuvent avoir petit bras, comme on dit, c'est-à-dire tu es un peu intimidé. On l'a vu, il y a eu tout un tas de débats sur les réseaux sociaux, la télé, sur Zahir Emery, le Parisien, qui avait flambé, qui s'est retrouvé à 18 ans en équipe de France,
et puis qui a disparu des radars.
Il semble revenir. Il a fait un bon match.
Fait un bon match mardi soir sur la pelouse de Leverkusen, à l'image de toute l'équipe du PSG.
L'équipe était archi-dominante. Quand tu as Vitinha à côté de toi, c'est sûr que tu fais un bon match.
Après, quid du retour, puisqu'on sait qu'il manquait Fabian Ruiz et Joao Neves, qui sont restés à Paris pour peaufiner leurs conditions physiques.
Qui vont revenir et qui vont prendre la place.
Après, pour le PSG, il y aura un gros match avec la réception du Bayern pour la prochaine journée.
Ça va être un choc. Ça va être un choc. Et disons que des jeunes joueurs comme ça, tu as besoin de jouer, tu as besoin d'acquérir, mais... On le voit, et c'est une des réussites de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia à l'OM, d'avoir su, on le voit, la défense. Moi, je le vois, ce qu'on pense, je le vois avec Léo Balerdi. Autant, il y a des moments l'année passée où tu sentais qu'il paniquait, il s'énervait, il a voulu trop en faire... Autant tu sens qu'en défense à trois, comme il a mis De Zerbi hier soir...
Cette année, avec Benjamin Pavard et Naïef Aguerd...
Même si Aguerd, il a pu jouer axial et lui, stopper gauche. Tu sens que le mec, il est tranquille. Et qu'il relance...
Pendant la trêve internationale, j'ai vu quand même qu'avec l'Argentine, il y a le défenseur de Bournemouth, Marco Senesi, qui lui a été préféré lors du match amical à Miami face à Porto Rico. Mais le fait d'avoir vu Roberto De Zerbi le titulariser samedi soir face au Havre en Ligue 1, ça prouve qu'il a une grosse confiance et il est revenu avec un...
Et c'est un garçon qui avait peut-être du mal à être le chef.
Le fait d'évoluer avec des joueurs expérimentés comme Otamendi avec la sélection argentine
Otamendi, Romero.
Romero aussi. Romero qui est blessé actuellement, mais qui n'a pas joué hier soir avec Tottenham.
Les mecs, c'est du costaud. Moi d'ailleurs, on le dit toujours en rigolant, on parle avec les collègues, on rappelle que Varane a été excellent défenseur central au Real Madrid, mais aussi parce qu'il y avait Ramos à côté.
Bien sûr, ça compte énormément. Dans une charnière centrale, si tu n'as pas ton partenaire et ton coéquipier
Tu connais, avec qui tu as des repères et tout. Pavard et Aguerd, c'est un sacré bon coup.
Et ça a mené une forme de stabilité. Et puis bon, après, on va conclure cette émission dans quelques minutes, puisqu'il nous reste juste quelques instants avant de rendre l'antenne.
Oui.
Voilà, ben, c'est vrai que si jamais l'OM est premier avec la meilleure défense, meilleure attaque, je pense que l'apport de Benjamin Pavard et Naïf Aguerd y est pour quelque chose.
Y compris parce que dans la tête, quand tu as des mecs comme ça, le joueur en face, il n'est pas... Tu ne te permets pas avec eux ce que tu fais avec un petit jeune. Et de même, quand il y a Aubameyang en pointe, l'arrière...
Toi, tu penses qu'il y a l'aspect psychologique aussi qui rentre en ligne de compte.
L'arrière, il le regarde toujours. Quoi. Un joueur de qualité, les mecs, tu ne le laisses pas. Parce que tu as des joueurs, on parlait de Greenwood qui est des fois très sinusoïdal. C'est-à-dire des fois, il a des grandes disparitions. C'est un mec, il est tellement fort que tu le lâches pas. Tu le gardes le coin de l'œil.
Ce qui explique que Roberto De Zerbi est toujours à cheval sur lui et qu'il le lâche pas d'une semelle.
Non, il le lâche pas. Et les défenseurs adverses non plus. Parce que si tu le lâches, tu n'en prends pas 4.
Voilà, ben on va refermer cette émission et ce chapitre européen. Voilà, ben pour l'Olympique de Marseille, donc Patrick, il y aura un déplacement à Bollard samedi soir.
Difficile.
Pour la 9e journée. Le Racing Club de Lens de Pierre Sage et Florian Thauvin qui occupent la 4e place après leur succès le week-end dernier, toujours à la maison face au Paris FC. Ouais. Ce sera un match compliqué pour les Olympiens samedi soir à 21h05.
Je ne sais pas si vous avez vu, enfin nos auditeurs ont vu. Je crois que c'était sur l'équipe ou je ne sais pas où c'était, dans quelle émission télé, ça doit être l'équipe. Thomasson, le joueur de Lens qui a fait deux passes
décisives,
Adrien Thomasson,
l'ancien Strasbourgeois et Nantais.
Ce week-end, contre le PFC, il a donné deux pales de but. Il a dit, on reçoit l'OM, ça va être un gros match, si on les bat, on passe devant. Parce qu'ils sont à deux points de nous.
Et ouais. C'est vrai qu'au niveau du classement, l'OM est premier avec 18 points. Et juste derrière, il y a le PSG qui est second 17. Troisième, Strasbourg et Lens.
Et eux, hier soir, ils étaient devant la télé en regardant le match.
Et oui, c'est vrai que cette équipe de Lens ne joue pas de compétition européenne. Aujourd'hui, il y a les clubs. Le Racing Club de Strasbourg joue en Conference League ce soir contre Jagiellonia. Il y a Nice.
Il y a Lyon. Et comme il s'appelle Lille.
Et Lille aussi, qui reçoit le PAOK Salonique.
Et quand tu joues le lundi, le jeudi tu joues forcément le dimanche en championnat. Et, et trois jours, c'est court. Parce que là. On était à Lisbonne. Reviens à Lisbonne en avion.
Et d'ailleurs, je ne sais pas si les dirigeants de l'OM ont décidé de rentrer à Marseille ou de rejoindre le nord de la France.
Non, ils rentrent à Marseille. Ils sont en train de réfléchir au fait que au mois de décembre, on jouera à Lille en championnat et on jouera trois jours après en Ligue des Champions
à Bruxelles,
à Saint-Gilles, à
l'Union de Saint-Gilloise, qui est le club de Bruxelles.
La banlieue bruxelloise.
La banlieue de Bruxelles.
Et ils pensent fortement rester
dans le
coin.
Parce
que Lille-Marseille, ça fait beaucoup. Marseille-Bruxelles.
Mais après, pour rejoindre la Belgique du Nord et de Lille, c'est à côté. Donc après, dans un souci de récupération, avec l'enchaînement des rencontres, c'est forcément une bonne idée de la part des dirigeants.
En une heure de quart, en sortant du stade à Lille, tu es dans un hôtel, dans un truc, pas loin de Bruxelles.
C'est vrai que maintenant, à l'heure où on parle énormément des calendriers chargés, je veux dire, la récupération, c'est quelque chose de très important.
Moi, je ne sais pas dans quelle mesure aussi la sortie de Peck Shaw, elle n'est pas liée à ça. Est-ce que le mec qui défend beaucoup, qui court beaucoup, est-ce que tu vas le laisser s'épuiser jusqu'à la 95e ou est-ce que tu te dis, je vais renforcer derrière, tenir le match nul et je vais reposer mon meilleur
attaquant.
Mais
après, Patrick, on sort d'une trêve internationale. Donc, il y a des joueurs qui ont été sollicités par leur sélection. Et bon, Pacquiao, lui, pour l'instant, il n'est pas encore dans les petits papiers de Carlo Ancelotti. Bon, on espère peut-être le voir à la Coupe du Monde au mois de juin prochain.
J'espère, ça
si jamais il fait une grande saison avec l'OM.
Il a fait une grande saison avec l'OM.
On sait qu'il y a pas mal de concurrence à son poste. Mais bon,
il y en a deux au Real Madrid. Un certain Vinicius et un certain Rodrigo Ils sont loin d'être des petits joueurs.
Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on espère peut-être le voir intégrer cette équipe de la Seleção brésilienne pour la Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique, au Canada. Ouais.
Ah oui, ça voudrait dire qu'il a fait une super saison. Mais je pense que c'est peut-être aussi pour ça que tu te dis, je ne vais pas mettre le mec sur les rotules parce que il risque de me claquer à la mi-temps, quoi, c'est-à-dire de plus avoir des chances.
L'enchaînement des matchs aussi, puisque on l'évoquait avec le calendrier démentiel, là, jusqu'à la prochaine trêve internationale, on parlait du prochain rendez-vous européen avec sa réception de l'Atalanta. Il y aura ce match à Lens qu'on évoquait avant. Il y aura une journée de championnat en milieu de semaine prochaine à la réception
mercredi
qui se déplace au Vélodrome, et un déplacement à la Baie des Champs. Mauvais souvenir pour l'Olympique de Marseille. Voilà.
Et après, tu reçois l'Atalante au Vélodrome.
Voilà.
C'est quand même.
Et il y aura la réception de Brest aussi, juste avant la prochaine trêve internationale.
Après l'Atalante, tu joues Brest au Vélodrome.
Voilà.
Donc c'est quand même. Alors Brest, heureusement, tu le reçois chez toi, parce que Auxerre à Auxerre...
Et juste tout à l'heure, lorsque j'évoquais les résultats, j'ai oublié de parler du derby entre Lorient et Brest le week-end dernier. 3 buts partout, voilà, pour le stade brestois et... cette équipe qui viendra au Vélodrome avant la prochaine trêve.
Tu marques le but du 3-2 à la 89e, tu dis c'est bon, on va gagner, et dans les arrêts de jeu, tu prends l'égalisation. Je pense que les Brestois, ils doivent l'avoir en travers. Mais c'est une bonne équipe. Après, ils ont quand même perdu pas mal de joueurs importants depuis même l'année dernière où ils avaient brillé en Ligue des Champions, ils avaient fait un très beau parcours. Eux aussi, c'est une équipe qui a du mal à garder ses bons joueurs. Ouais.
Je pense notamment à Pierre Lesmelou qui est parti à Paris rejoindre le Paris FC, cette équipe promue.
Camara qui est parti à Rennes.
Camara qui a rejoint le Stade Rennais.
Leur force était leur milieu de terrain avec le Marseillais Magnetti, qui est originaire de Marseille.
Et formé au football club du Burel.
Voilà, au Burel. Et ma foi, sur les trois qui étaient le point fort, il y en a deux qui sont partis.
Donc forcément, pour cette équipe de Rite 3, ça s'affaiblit.
Après, quand tu vois les salaires qu'on leur a proposés...
C'était difficile de refuser.
Ah oui, Brest, c'était difficile. Tu ne pouvais pas t'aligner. C'est une équipe qui, malheureusement, ne pouvait pas s'aligner, quoi.
Voilà. On referme cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 100% foot. On espère retrouver
Franck en
meilleure santé et en pleine forme. Voilà. On se quitte et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bye bye.
Ciao.